Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, K.R. Kevin Raphaël.
What it do, baby?
Kev, faut que je vous raconte ça. On sort de TVA Sport. Et Kev s'en va vers sa Tesla, disons-le. Là, tu t'assumes. Maintenant, t'as une Tesla, puis c'est bien correct.
C'est pour l'environnement, donc.
Oui, absolument. C'est pour l'environnement, absolument, absolument. Et là, il essaie de rentrer dans sa Tesla. Et il me dit, hey, regarde, Pat, mon char, il est tellement intelligent qu'il pense que je suis en train de le voler, fait qu'il me filme. Et là, je suis comme, OK, je connais pas ça, une Tesla. Je suis comme, OK, c'est cool, tu sais. J'embarque dans mon auto, et là, je l'entends crier. Je baisse la fenêtre. Kev, il me dit, c'était pas mon char! Je rentrais pas dans la bonne Tesla. C'est pour ça qu'il me filmait. Il pensait que je la volais pour vrai.
Oh, ben, il y a quelqu'un qui pense que j'ai fait une tentative de vol sous son char, là.
Hey!
Damn!
C'est vraiment, mais vraiment drôle. Ça m'a bien fait rire.
Damn!
Kev, on peut nous écouter où?
TVA Sports, Stitcher, Google Podcast, Apple Podcast, Q-Cube, Spotify, laissez-nous Fata, Frog Splash, laissez-nous des commentaires, allez acheter la 8e merveille du monde de Pat Laprade, allez acheter les gears sur le zonekr.ca, trademark ton shit, confirme mania, déconfinement mania, allez écouter sans restriction avec...
Cette semaine, Gabriel Carr.
Yo, badass girl.
Membre de l'équipe féminine
de soccer qui a remporté la médaille d'or.
Exact.
Puis Evelyne Vien était venue sur le podcast quelques jours après être revenue au Canada là, ouais. Des Olympiques. Puis Evelyne avait dit, parce que Evelyne et Gab ont habité ensemble à Tokyo.
Okay.
Et Evelyne avait dit que Gab faisait pas son lit, puis elle avait dit plein d'affaires sur Gab.
Ça, c'est drôle.
Donc là,
moi,
Gab.
Non plus, je fais pas mon lit.
Là, j'ai donné la chance à Gab de parler.
Ouais.
Yo, Pat!
De parler sa parole.
De parler sa parole. Je vais pas tout dire ce qu'elle a dit, je vais juste dire un petit hit.
Elle fait-tu son lit?
Non, elle fait pas son lit, first. Elle fait pas son lit, elle l'a bien dit. Elle dit que Evelyne Vient, une des meilleures joueurs de l'histoire du Canada au soccer, là. C'est the next. Elle pis Gabe Carr, c'est les next one.
OK. Ils ont eu une belle victoire, je me trompe pas, au Stade Saputo cette semaine. Ils ont gagné.
Je voulais aller au match, mais je coachais.
Mais ils ont gagné,
pas, mais
right?
J'ai pas. Mais allez sur l'Instagram de sa restriction, l'information est là. Mais, c'est quoi je disais? So, elle a dit.
Oui.
Que Evelyne Vient dormait avec les pieds en dehors des couvertes.
OK.
That's some psychopath shit. Ben ma voyons, bad, là.
Voyons.
Ma bad, là.
Quand il fait trop chaud, tu tires un peu la couverte.
Si tu dors tes pieds en dehors de la couverte, t'es probablement comme proche d'un double murder, là.
Ben, de quoi tu parles?
Les gens qui dorment les pieds en dehors de la couverte, untrustable. So, là, on a eu la conversation avec Gab Carr, allez écouter ça. C'est le, je sais que tu vas dire, je fais mon Tony Schiavone, mais c'est le podcast le plus écouté dans les 24 premières heures.
Je suis plus capable. Non, mais on s'en fout qu'elle dorme avec les pieds.
Non, gars, that's some fucked up shit. My bad, là, that's some fucked up shit.
OK. Moi, je trouve que quelqu'un qui trouve que c'est bizarre, c'est comme l'annonce des œufs, là. C'est pas elle qui est bizarre, c'est toi qui est bizarre, là.
Ah, tu feras un sondage sur ton Twitter, t'es bon là-dedans.
Ben voyons. Anyways. Kev, le concours pour la WWE,
ouais.
À la Place Belle.
Ah, ben, faut que je fasse le tirage. Hein?
Faudrait faire un tirage.
Tu vas le faire durant le show.
On va le faire durant le show. Excellent, parfait. Mais non, c'est correct. Pendant ce temps-là, je vous annonce qu'il y a tout près de 3000 billets de vendus.
C'est
pour
incroyable.
Le 30 décembre à la Place Belle. Les billets étaient en vente. Vendredi dernier, il y avait des préventes dans les jours qui avaient précédé. Donc, c'est excellent. On est à mi-chemin avec ce qu'on avait eu, un petit peu moins que le mi-chemin d'avec ce qu'on avait eu en 2019. 2019. Donc, continuez, c'est super le fun. Kev et moi, on va être là. Puis, on va vous revenir là, avec les antipodes en direct. Il faut juste régler quelques détails pour s'assurer d'avoir un toit. Mais on va faire ça très, très bientôt. Mais je pense que pendant que tu continues à gosser pour... D'ici la fin de l'émission, le nom du ou de la gagnante va être choisi, Kev. Tu garantis ça, là.
Oui, oui, je suis en train d'arranger ça, là.
Excellent. Fred, les nouvelles. Écoute, c'est une bombe qui est tombée aujourd'hui.
Une bombe.
Dans le monde de la lutte. Ring of Honor libère tous ses lutteurs et prend une pause après Final Battle. Je dis c'est une bombe parce que Ring of Honor, pendant des années et des années et des années, a été la compagnie de lutte indépendante numéro 1, non seulement aux États-Unis, mais même au monde. Faisait des shows au Japon, faisait des shows en Europe. Ils ont fait des shows ici à Montréal. J'ai été le promoteur pour ces deux événements-là. Ils ont eu un paquet de lutteurs à la WWE et à AEW en ce moment, et à Impact aussi, ont passé par Ring of Honor, dont les Québécois Kevin Owens et Sami Zayn. Et d'entendre ça, ben premièrement, je trouve ça vraiment triste parce que Ring of Honor, ça a été une belle compagnie de lutte, mais on sentait le vent changer dans les derniers mois depuis le retour des foules. GCW, Game Changer Wrestling, on vous en parlait, qui devenait vraiment, qui avait le buzz, qui était la compagnie de lutte indépendante numéro un en ce moment. Et Ring of Honor a jamais été capable vraiment de se relever de la perte des Young Bucks, de Cody, les Best Friends, Hangman Page, Kazarian, Scorpio Sky. Il y avait Kenny Omega de temps en temps avec New Japan, puis ils ont perdu leur relation avec New Japan. Ça en fait beaucoup, parce que Ring of Honor a toujours été capable de se relever. Ils ont perdu Punk, ils ont perdu Samoa Joe, ils ont perdu Bryan Danielson, ils ont perdu Claudio Castagnoli qui est Cesaro. Ils ont tous perdu. Ils ont perdu les Kevin Steen, les Al Generico. Ils ont perdu tout ce monde-là. Ils ont toujours été capables de se relever. Mais là, ils ont jamais été capables de revenir où ce qui était avec ces gars-là. Et on le sentait, là. On le sentait que, écoute, Final Battle en décembre prochain va être leur premier show avec fans. Ils sont un petit peu en retard, là, sur le trend, là. Ouais. Tu sais, ils ont fait un communiqué disant que la pandémie les avait pas aidés. Et bon, on le sait, ils ont complètement arrêté eux autres au début de la pandémie pour, et on les saluait au début parce que c'était pour la santé de leurs lutteurs et leurs lutteuses, mais ils n'ont jamais été capables de rembarquer après ça dans le train. Ce qu'ils ont fait, c'est dans le communiqué, on apprend qu'ils prennent une pause après Final Battle de quelques mois. En tout cas, on parle d'avril avec Supercard of Honor et ils essaient de trouver une façon de repartir le brand après, mais quand t'arrêtes pour 3-4 mois et que tu dis à tes lutteurs, vous êtes tous et toutes libérés de votre contrat après Final Battle, ben c'est sûr que ça sera pas évident pour eux de repartir si ils repartent, parce que bon, il y a pas de garantie là-dedans. Et là, c'est ça. Donc tout le talent est maintenant libéré. Et c'est une compagnie là qui existe depuis 2002. Ils auraient célébré leur 20e anniversaire en février. Ils pourront même pas le célébrer. C'est assez triste. 20 ans, puis ils pourront même pas le célébrer.
Voilà.
Et les lutteurs, il y a même déjà des lutteurs, là, Matt Taven, Mike Bennett, Silas Young, Trish Adora, il y a plein de lutteurs là, qui sont en ce moment, là, qui s'annoncent publiquement en disant que ils sont disponibles pour des bookings. Ouais. Les Briscoes, on en parlait la semaine dernière, qui ont été à Game Changer, qui ont d'ailleurs remporté les titres par équipe, mais c'est pas pour rien, là. Là, tout s'explique. Tout d'un coup, les Briscoes, qui avaient vraiment jamais sorti de l'environnement Ring of Honor, un petit peu CZW, mais c'était des Ring of Honor true and true, puis là, ben on les voit ailleurs. PCO, on le sait, le Québécois PCO qui a décidé de pas renouveler, sentait qu'il se passait quelque chose à ce niveau-là, parce que personne parlait que qu'il était en train de se qu'il renouvelait leur contrat, donc il y avait quelque chose de bizarre. Yann Ricaboni, qui est un commentateur qui est excellent, qui est le play-by-play pour Ring of Honor, lui également devient libre, et ça, je trouve ça intéressant, parce que Yann Ricaboni, c'est quelqu'un qui BMW a toujours été intéressé d'avoir. Et il a toujours hésité d'y aller. Et là, maintenant qu'il est libre, ben, reste à voir si BMW vont justement l'engager à ce niveau-là. Donc, ça va changer beaucoup le landscape de la lutte parce que, ben, tu l'as dit, Bandido a déjà dit qu'il était pour...
GCW.
Il signait avec GCW. GCW va sauter là-dessus.
Ben oui.
Là.
Mais...
C'est sûr et certain.
Mais, c'est quand... Ouais, on va se passer à la boîte de mouchoir, guys. c'est quand ils ont fait All-In, puis que Ring of Honor était pas nécessairement mis de l'avant, malgré le fait que c'est eux qui ont payé pour All-In, c'est eux qui ont prêté le ring, c'est eux qui ont aidé pour l'amphithéâtre, c'est eux qui ont fait ci, c'est eux qui ont fait ça. Puis ils étaient pas représentés, et pour moi, c'est là que la pente descendante a eu lieu.
Mais ils étaient représentés, il y avait leur talent qui était là.
Leur talent était là, mais il y avait pas le logo Ring of Honor, il y avait pas... C'était pas un show Ring of Honor, c'était un show Ring of Honor sans que ce soit un show Ring of Honor annoncé. Ouais. C'était un show Cody Rhodes et les Bucks qui font ça, puis sachant que ces gars-là s'en vont...
Mais à ce moment-là, on ne savait pas.
Ben eux, ils... Excuse-moi, ne peux pas croire.
All-In, c'est arrivé quand déjà?
All-In, c'est il y a 3 ans, il y a 4 ans?
Attends, Ménil, c'est juste que je suis plus sûr si All-In, c'est en 2018 ou en 2019. Là,
mais qu'est-ce que ça change?
Eh ben, ça change qu'ils ont annoncé AEW à janvier 2019.
Ouais, mais Pat,
c'est All-In, c'est en septembre 2018.
Ouais, mais Pat, ils ont fait All-In en septembre 2018,
oui,
ils ont annoncé en 2019. Ils savaient qu'ils...
Non, rien. En septembre 2018, rien n'est encore décidé à 100%. En tout cas, c'est pas... Je comprends. Ils sont déjà pour parler.
4 mois d'avance, là.
Ils sont déjà pour parler avec Tony. Non, mais oublie pas, ils n'ont pas commencé le 1er janvier. Ils ont annoncé le projet.
Je sais, mais pour annoncer un projet.
Je le sais.
4 mois, c'est quand même cool. Mais ça devait être préparé depuis longtemps.
Mais rappelle-toi qu'on a été au Madison Square Garden pour Ring of Honor avec New Japan, justement, en mars-avril 2019, fin de semaine de WrestleMania. Rappelle-toi le prix des billets qu'on a payé.
Ouais.
Et le prix des billets, de nos billets, la journée de l'événement, on les a payés, je crois, 200$
ouais.
Et ils se vendaient 25$
ouais,
parce 25 que piastres. Parce que les gens ont acheté les billets basés sur le fait qu'ils pensaient voir les Box, Cody, Omega. Et ouais. Là, ces gars-là étaient plus là. Et ça a beaucoup fait mal à Ring of Honor, tout ça. Bref, c'est vraiment triste. C'est triste pour les personnes qui vont perdre des emplois. Moi, c'est une compagnie que j'ai été très, très proche de. Ça me fait énormément de peine de voir ce qui se passe. J'espère de tout cœur qu'ils vont revenir sur la scène, qu'ils vont être capables de se relever de ça. Ça sera pas évident, mais je leur souhaite vraiment
C'est ce qui est plate?
Oui.
C'est que Ring of Honor meurt, mais ce qui est le fun, c'est qu'on a une gagnante.
Oh, on a une gagnante. Mais là, on va l'annoncer à la fin du show. Que les gens écoutent jusqu'à la fin du
mais
show.
J'ai juste dit que c'était une.
Ben, c'est correct. Fait que là, ça veut dire que les gars vont arrêter de nous écouter. Puis les filles vont continuer.
Je vais juste voir si c'est pas un robot avant. Je vais continuer à parler.
OK.
C'est un robot, là.
Les robots, ils ont pas le droit de gagner. Mais si c'est Robocop.
Yo, fuck you.
OK. Je veux m'en aller vers le conflit entre Charlotte Flair, Becky Lynch et la WWE. Okay, t'as-tu?
J'ai suivi tout le dossier.
OK, pour ceux qui l'ont pas vu, là, Charlotte Flair et Becky Lynch doivent s'échanger leur ceinture à SmackDown parce qu'évidemment, la WWE est pas capable de faire ça comme du monde. Donc, Charlotte est championne de Raw, elle s'en va à SmackDown. Becky est championne de SmackDown, elle s'en va à Raw. Ils ont fait la même chose l'an dernier avec les titres par équipe. Et là, au lieu de, mettons, faire gagner Bianca Belair et Sasha Banks, puis bon, fait que là, ils décident de s'échanger les titres. Personne n'est content de cette situation-là. Et là, Charlotte, Becky Lynch a l'idée de vouloir avoir une vidéo, une photo. Elle veut l'image d'elle avec les deux ceintures dans les mains pour pouvoir plugger son Becky Two Belts.
Ouais.
Et je sais pas si c'est ça qui a comme achalé Charlotte dans le processus, mais visiblement Charlotte voulait pas lui donner la belt.
Non, moi je pense que c'est toute l'idée de marde.
Et là Charlotte, Becky vient pour prendre la belt et là Charlotte la tire vers elle et en bon québécois la crisse à terre.
Ouais.
Et là, Becky, sa face a changé. Ouais. Sonya Deville, qui est dans le milieu, elle fait comme ramasse la belle, puis elle a improvisé, mais j'imagine qu'elle était pas plus contente de ce qui se passait. Et là, Charlotte ramasse la belle. Sonya Deville la prend.
Ouais.
Et là, Becky vient pour la prendre. Elle dit non, donne-moi la tienne avant. Parce que Becky veut vraiment avoir le visuel avec les deux, et là, personne lui laisse le faire. Et là, Becky prend juste sa belle et la pitch sur Charlotte, la belle tombe à terre, et là, elle prend la belle de Raw, puis elle est pas contente. Et
il y a,
là,
okay, il y a beaucoup de choses là-dedans.
Et ça, c'est ce qu'on a vu.
Ouais, à la télé.
À la télé. Puis là, ensuite, backstage, confrontation entre Flair et Becky. Les deux sont pas contents. Charlotte, principalement. Qu'est-ce que t'allais dire?
Bon. Moi, là, si je suis Charlotte Flair, là, je suis fâché du segment pendant que tu bois une gorgée de Sprite. Est-ce que tu penses qu'il aurait fait Roman Reigns et Big E échanger leur belt s'ils changeaient de brand?
Ben, écoute, je dis non. Ils l'ont fait pour les championnats par équipe.
Championnat par équipe qui mettent aucun respect dessus, là. Championnat par équipe, il n'y a pas de respect dessus.
T'as raison.
Le championnat féminin a closé WrestleMania.
Ouais, ouais, t'as raison.
Deux fois.
Mais ils ont raison de pas être. Ben, en fait, peu importe s'ils l'ont déjà fait ou pas, c'est pas une bonne idée.
C'est pas une bonne idée. Fait que là, Charlotte, elle arrive, elle est déjà pas contente. Faut qu'elle fasse. Puis, regarde, elle voulait peut-être passer un message plus haut. Elle a pas choisi la bonne façon de le faire.
C'est parce qu'elle, Becky, s'est sentie pas respectée
mais
par Charlotte.
Elle s'est sentie très souricière là-dedans. T'sais, elle était comme pognée un peu. Puis, moi, j'ai aimé Sonya Deville parce que Becky aurait pu faire la même chose avec Charlotte. Sonya dit, tu me donnes le belt, là? Il y a pas de niaisage ici. Je trouve que Sonya a très bien géré la situation. Maintenant, je mets pas ça sur le dos à Charlotte. Je mets ça sur le dos au boss en haut.
Je comprends. C'est tout. Mais après ça, ce qui est arrivé, c'est que Charlotte et Becky, il y a eu une confrontation backstage. Charlotte a décidé de s'en aller. Et Vince McMahon n'était pas content après Charlotte parce que était, tu sais, il a pas eu la chance de lui parler, puis elle est pas venue lui parler avant de s'en aller. Fait que, de ce que je comprends, la WWE n'est pas très content présentement, n'est pas très contente de comment Charlotte a géré cette situation-là. Maintenant, c'est Charlotte Flair.
Ben, c'est
donc, il y aura sûrement pas de conséquences parce que qu'est-ce qui va arriver? Ils vont la congédier? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver?
Ou ça tu penses?
Pour qu'elle aille à AEW?
Avec Andrade qui a mis FUWWE après que tout ça soit passé?
Je veux dire, à un moment donné, il va y avoir au maximum une tape sur les doigts, mais clairement, à partir du moment que le talent commence à réagir comme ça face aux décisions de booking, ça va pas bien. Là. Donc, il y a une crise à gérer, il va falloir qu'il règle ça.
Parce que, tu sais, si nous, on voit que le booking est shit, vous pensez que les lutteurs, lutteuses, voient pas que le booking est shit.
C'est sûr.
Vous pensez que les lutteurs, lutteuses de WWE écoutent pas AEW?
C'est pas parce qu'ils disent en entrevue que tout va bien. Ben non, ils sont obligés.
Ben ouais.
C'est correct, ils sont professionnels. Publiquement, ils chialeront pas contre leur employeur, mais en coulisses, c'est sûr que ça se parle.
Ce que je veux dire, là, c'est qu'ils écoutent AEW, là. Puis clairement, ils doivent se dire, damn, ça pourrait être ça. Pat, il fait genre full attention pour pas qu'on l'entende boire son Sprite.
Ok, mais ta gueule, je fais attention! le gars,
Fais-moi pas rire, tu vas me faire couler du
le gars, il me out!
Oh.
Ok, parlant des EW, Tony Nese, l'ancien de 205 Live, qu'on a vu lors du dernier Dynamite samedi dernier dans la foule pour le combat entre Bryan Danielson et Dustin Rhodes, il est signé officiellement avec EW.
Ils l'ont pas annoncé?
Non, mais ça a été annoncé, Dave Meltzer qui a annoncé que Tony Nese avait effectivement signé. Il a déjà lutté d'ailleurs sur les tapings au Universal Studios, il a fait quelques matchs. Donc Tony Nese s'en va avec AEW. Écoute, pas nécessairement un mauvais choix, c'est peut-être pas le lutteur le plus spectaculaire et charismatique, mais c'est un bon lutteur qui a une bonne shape. Est-ce que j'aurais pris Buddy Matthews, Buddy Murphy avant lui?
100%.
Absolument, mais en même temps, ça veut pas dire que Buddy Murphy ira pas là à un moment donné, ou il y a peut-être des raisons pourquoi il est pas encore là. Mais Tony Nese est un bon talent.
C'est pas sûr que Tony Nese doit coûter moins cher que...
C'est pas un game changer, on s'entend, mais c'est un bon talent, ben, tu sais, qui paraît bien pour la télévision, puis qui cadre bien dans le produit qu'AEW a.
Puis, AEW, ils ont Revolution, mais ils ont Dark.
Oui.
Elevation.
Oui.
Rampage.
Oui.
Dynamite.
Ah oui, il y a
de la place là pour qu'il...
Mais d'ailleurs, les enregistrements à Universal Studios, ils ont fait un mois de taping. Là.
Ouais, c'est
donc,
fou,
il y a eu
ça,
beaucoup de matchs. Et Dark Elevation, ben il y a de moins en moins de matchs. Là. Parce qu'à un moment donné, ils font ça devant public.
Ouais.
Fait que des fois, ils font Elevation, Dynamite et Rampage.
Faut
qu'ils sortent à Rampage. Là, t'sais. Donc, les shows de 12 matchs comme c'était.
C'est 5 à 1 Houston.
Ben, c'est correct, ça. Moi, j'étais un gars de Houston.
T'aimes les tricheurs?
C'est passé, ça. Oh, que celui qui n'a jamais triché me lance la première bière.
Non. Non, moi, j'ai rien contre Houston, c'est juste...
C'est juste ce que je faisais quand j'étais au secondaire.
Oh.
J'avais une calculatrice scientifique, parce qu'on était obligés, puis il y avait le petit livret d'instructions.
Ouais.
Puis moi, les formules en physique, en chimie, en mathématiques, j'étais pas capable de me souvenir de ça. Puis je me disais, c'est niaiseux de nous faire apprendre ça par cœur, parce que si jamais un jour je travaille dans ce domaine-là, je vais y avoir accès aux formules. Ouais. L'important, c'est de savoir comment les appliquer. Parce que je peux bien l'avoir devant moi. Damn, si je sais pas comment l'appliquer, j'arriverai pas au bon résultat. Alors moi, sur mon livret d'instructions, j'avais plein de toutes mes formules qui étaient écrites là. Fait que quand j'ouvrais ma calculatrice, je checkais la formule, c'est ça la formule.
Regarde, pour toutes les kids qui nous écoutent en ce moment, ne faites pas ça.
Au contraire, c'est niaiseux de savoir des formules par cœur.
Étudier.
Mais je savais quoi faire avec la formule.
Étudier les kids.
Ben, j'étudiais aussi.
Kids, étudier.
Hey, je prenais toute mon histoire secondaire 4 par cœur. J'ai fait partie du 7%, là, genre aller aux examens du ministère. Bref, que celui qui n'a jamais triché me lance la première bière. Jim Ross, triste nouvelle, Jim Ross, qui a annoncé qu'il avait un cancer de la peau, qui était pour avoir des traitements, de la radiation, puis que, bon, habituellement, un cancer de la peau, ça se traite relativement bien, là, donc on lui envoie plein d'ondes positives. J'ai d'ailleurs envoyé un petit message à Jim pour lui dire qu'on était derrière lui dans ce combat, puis bon, on va souhaiter tout se passe bien. Parlant d'annonceurs, on s'en va vers Greg Hamilton, qui a été... Bon, on a annoncé au début qu'il avait été congédié. Greg Hamilton a rectifié en disant on se quitte de façon mutuelle. Je comprends qu'on se quitte de façon mutuelle, mais habituellement, il y a quelqu'un qui prend la décision entre les deux, là. Tu sais, c'est comme, ben, regarde, on te re-signera pas. C'est correct, je voulais pas re-signer, mais il y a quelqu'un qui fait le move en premier. Greg Hamilton, qui évidemment, qui était l'annonceur en maison, du côté de,
Son highlight, c'est quand il annonçait Shane McMahon de Best in the World.
Absolument, qui a annoncé Crown Jewel. Qui a annoncé Crunchyroll, puis qui était à SmackDown également vendredi dernier. Il était avec la compagnie depuis 2015 et il était l'annonceur maison depuis 2016. Donc, ça faisait 5-6 ans qu'il était là. Il a dit que, bon, il voulait... ses priorités, c'était sa famille, sa mère qui est dans les 70 ans, sa sœur qui est atteinte de paralysie cérébrale. Donc, tant mieux s'il est en paix avec cette décision. Là, parce que bon, en plus, lui, il est arrivé, là, il est en train de poursuivre Rock Nation et West Side Gun parce qu'ils ont utilisé un sample de sa voix. Donc il y a des batailles au niveau judiciaire de ce côté-là pour Greg Hamilton. Donc, on va lui souhaiter que tout se passe bien à ce niveau-là. Puis, ben, écoute, il n'est pas dit qu'on le reverra pas à un moment donné. Donc, voilà. WWE a dévoilé également sa liste de pay-per-view pour l'année 2022. Quelque chose qu'ils font rarement, là, de dévoiler leur liste au complet.
Ils veulent faire comme les ligues sportives, genre MLB pis ces affaires-là, quand ils dévoilent la liste pis ils font un gros battage médiatique. Là.
Exact.
J'ai bien vu qu'est-ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux pis j'étais comme, mais vous changez d'idée à chaque fois. C'est pas genre...
Mais là, bon, à partir du moment que les dates sont là. Donc, 1er janvier...
Oui, mais ils changent les dates pareil, même s'ils annoncent.
C'est vrai. 1er janvier, ça va être à Atlanta. 29 janvier, Royal Rumble dans un stade au Dôme à Saint-Louis. Février, ça va être en Arabie Saoudite. Le 2 et le 3 avril, donc c'est maintenant officiel, WrestleMania 38 à Dallas va être sur deux soirs. Donc,
Jesus. Donc
tu disais, t'étais pas pour y aller, toi, si c'était sur deux soirs. Moi, c'est sûr, j'y vais, là. Fait que mais on va avoir deux soirs de 3h30, 4h au lieu d'un soir de 8. Moi, je suis pour ça. Là.
Pour de vrai, là, je vais voir ça ressemble à quoi le booking. Là. Parce que eux s'en foutent, moi je m'en fous. Fait que s'ils s'en foutent, moi je m'en fous. J'ai plus de temps à donner parce que c'est le fun.
Ben moi c'est sûr, je vais couvrir WrestleMania cette année.
Tu fais ce que tu veux.
Moi, je sais, je fais ce que je veux, t'es pas mon père. Le 8 mai, ça va être un pay-per-view à Providence, Rhode Island. Le 5 juin, ça va être à Chicago. Le 2 juillet, Money in the Bank au Allegiant Stadium à Las Vegas. Ça me parle. Aller voir un show au stade à Vegas. Fait que 2 juillet, serais-tu down?
C'est loin,
aller fêter la fête du Canada et le 4 juillet.
C'est trop loin pour moi, okay. Bro.
30 juillet, SummerSlam à Nashville. Ça, c'est intéressant également. Le 3 septembre ou le 4 septembre, All Out est toujours la fin de semaine de la fête du travail. Ils vont faire un pay-per-view la même fin de semaine. Ça va être un pay-per-view probablement au UK, donc soit à Cardiff ou à Wembley à Londres. Donc ça sera pas en même temps qu'All Out, mais ça va être le même week-end, ce qui est aucunement surprenant parce que ben ils sont en guerre, là, même si eux autres l'avouent pas. Là.
C'est ça, mais Tony Khan avait dit, lui, il s'en foutait, lui, il était pas down d'aller en guerre, pis c'est d'aller en même temps que WrestleMania. Il avait dit, ouais, si WrestleMania c'était à eux, puis là, après ça, WWE for move comme ça. Moi, je serais pas surpris que Tony Khan fasse « Ah ouais? Ok, attends, check! »
Ça se peut. Octobre en Arabie Saoudite et finalement novembre à Boston Survivor Series. Donc, pas de pay-per-view en mars, en août et en décembre. Mais au total, on parle quand même de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 pay-per-view, donc ça se pourrait même qu'il
y en ait. Ils changent les dates, ils s'en foutent.
12 parce que WrestleMania sur deux soirs.
Ils changent les dates tout le temps. Moi, je prends pas ça pour du cash.
WWE a signé des ententes avec Panini et Mattel. Donc, Mattel pour les, évidemment, les figurines. Et avec Panini, pis ça, c'est intéressant parce que WWE est avec Topps depuis des années et des années. En fait, depuis, j'ai pas la date, en fait, mais il était avec Topps depuis vraiment longtemps. Et là, ben on sait, AEW signe avec Upper Deck. Panini, c'est très fort au niveau basket et foot. Moi, j'ai une recrue de Zion. Zion?
Zion. Bro,
moi, je l'appelle Zion. J'appelais Dion. J'appelais Dion. Dion Faneuf. Moi, c'était Dion Faneuf, tu sais. Zion, j'ai sa carte dans Panini Prism. Et WWE, justement, leur premier produit, ça va être WWE Prism. Alors, on le voit moins, on le voit pas en hockey et en baseball, Panini, mais en foot et en basket. Puis c'est européen, donc il y a beaucoup de Panini en Europe, particulièrement. Moi, j'avais les livres de Colin Panini dans les années 80. Fred aussi, il me fait signe que oui. Donc, quand même une grosse signature à ce niveau-là. Et Mattel, bon, ben évidemment, sont avec la WWE depuis 2009. Dark Side of the Ring, t'as pas encore écouté Luna Vachon, fait que là, je vais en parler quand même, là, parce que là, à un moment donné, tu sais. Luna Vachon, honnêtement, j'ai adoré. C'était excellent. Très, très fier d'avoir mon nom dans les crédits comme producteur associé, parce que ça a été un super épisode. Rien de controversé, tout a été bien fait. On a bien expliqué la vie, la carrière de Luna Vachon, parce que oui, elle souffrait de bipolarité. Elle a été publique avec ça. Son décès était pas évident, bon, overdose et tout ça, mais on a traité ça avec respect. On a parlé à plein de monde qui l'ont bien connu, évidemment Paul Vachon, qui est son père adoptif, mais qui est le seul père qu'elle a connu. Mais évidemment aussi Gangrel, qui a été longtemps son conjoint.
Ah, je savais pas.
Ouais, Gangrel a été longtemps son conjoint.
Pas encore écouté, tu sais.
Il y a des petites affaires là, à gauche, à droite, qu'on n'a pas mentionné, mais bon, ça, c'est bon. Par exemple, Luna, son nom, c'est Nancy Sullivan, qui était une de ses amies,
vrai?
Qui lui a donné le nom de Luna. Ah, absolument. Une autre histoire que j'aime bien de Luna, c'est la première fois qu'elle a été dans un vestiaire en Floride. Elle recevait une claque. Je me trompe pas, c'était Kevin Sullivan, puis elle est retournée backstage en disant « That's all you got! » avec la grosse voix de Mad Dog Vachon. Puis là, quelqu'un a dit « Hey! T'es la fille à Mad Dog Vachon! » Puis elle a dit « Non, c'est la fille à Paul. » Ça, on l'a pas compté, mais c'est quand même des histoires qui étaient intéressantes. Puis bon, le reste du documentaire est vraiment, vraiment bon. On parle qu'elle a été abusée par une tante. On mentionne pas la tante. On fait un peu référence que c'est Viviane. Puis c'est pas Viviane. Puis Paul est convaincu que c'était pas sa sœur, mais on fait une référence qu'elle aurait déjà dit ça. Puis je voulais en reparler parce que ça laisse croire qu'elle parle de Viviane, mais en même temps, on pense plus que moi ma compréhension de l'histoire, c'était du côté de sa mère et non pas du côté de son père. Alors je l'ai au moins rectifié le tir. Et je vous laisse sur la plus belle quote qu'elle a dit. Et pour vrai, si vous avez moins de 13 ans, bouchez vos oreilles, s'il vous plaît. Elle a déjà dit, en parlant à un gars, « My clit is bigger than your dick. »
Damn!
Damn. J'ai adoré cette ligne-là. XPW, la semaine dernière, promotion de Rob Black. Rob Black, c'est un gars qui faisait du... encore là, bon, on a un contenu moins... on a un contenu PG-13. Rob Black, c'est un producteur de films pornographiques qui a décidé de se lancer dans le monde de la lutte, mais dans le monde de la lutte vraiment extrême, à un moment où c'était hyper, hyper populaire, au tournant des années 2000, un petit peu avant, dans les années 90. Et... écoute, c'est un money mark, là, je veux dire, Rob Black, là, c'est pas comme s'il connaissait le monde de la lutte. Et on voit des stunts, ça a aucun sens. New Jack a lutté pour eux autres. Puis New Jack, à un moment donné, il a lancé le patinet d'en haut d'un échafaud. Il y avait, je pense, 5 tables une par-dessus l'autre. Il a lancé le patinet à côté des tables. Il a pogné la slide. Il est tombé ses câbles. Il a rebondi dans il aurait pu se tuer. Il y a eu du feu aussi. À un moment donné, on utilisait beaucoup de feu. Et on voit à quel point le feu, c'est une des affaires les plus dangereuses. Parce que tu peux pas le contrôler tout le temps, le feu. Il y avait ça. Moi, je me souviens de Messiah. Messiah est un lutteur qui a aussi lutté à CZW. Kevin Steen, Kevin Owens a lutté contre lui à CZW. À un moment donné, Rob Black et sa femme, c'est Lizzie Borden. Lizzie Borden, c'est une valet à XPW. Je me souviens d'elle parce qu'il y avait le magazine Wow, qui était un nouveau puis qui était un peu plus avant-gardiste au tournant des années 2000. Puis, il montrait là, t'sais, des pleines pages de filles en bikini, de lutteuses, parce que, bon, c'était aussi la Attitude Era, puis il y en avait beaucoup. Fait Lizzie Borden, elle a marqué le gars de 23 ans que j'étais à l'époque. Et Messiah, il y avait un angle entre elle et lui. Puis l'angle est devenu réalité à un moment donné. Fait qu'il a comme fréquenté, il a comme couché avec Lizzie Borden, mais qui est marié avec le boss.
Oh, that's not good.
Et là, à un moment donné, Messiah est chez eux. Puis il y a deux gars qui rentrent chez eux. Et il commence à le battre. Messiah arrive à se déprendre. Puis là, à un moment donné, il stabilise et il sort un cutter et il coupe le pouce.
What?
Tu revois la scène. Tu sais, ils font toujours les scènes là, dans Dark Side. Fait que il coupe carrément un pouce. Là, finalement, les gars s'en vont. Ils essayent de trouver son pouce pour pouvoir le mettre dans de la glace, mais il tombe sans connaissance. Fait que à ce jour... il n'y a plus de pouce.
Wow!
Mais il a continué à lutter. Ça c'est fou. Puis tout le monde a toujours blâmé Rob Black. Rob Black qui a refusé de faire partie du documentaire en passant. Donc, bref, c'est à voir. Si vous n'avez pas connu ce produit-là, c'est quand même un documentaire intéressant sur une promotion qui était un peu spéciale. Les lutteurs des CW ont été là aussi à un moment donné. Bref, allez voir ça. Rapidement, lutte québécoise, IWS du 16 octobre dernier, j'ai oublié d'en parler la semaine dernière. Nouveau champion par équipe, TDT.
Hey!
Thomas Dubois et Mathieu Saint-Jean. Gros bump de Thomas Dubois durant le match qui ont battu les Blacks québécois. Ils vont affronter le 13 novembre prochain. Est-ce que tu connais les Voro Twins?
Non.
Ils ont 1,1 million d'abonnés sur TikTok. Deux jumeaux de Vancouver qui luttent.
Ouais.
Et qui sont hyper populaires sur TikTok et qui vont venir lutter à Montréal pour affronter TDT le 13 novembre prochain, toujours du côté du MTLUS. Ça va être le premier show pleine capacité pour la IWS. Excellent match entre Kevin Blanchard et Mike Bailey. J'ai pas aimé l'aftermath parce qu'on a tout de suite fait rentrer l'aspirant numéro 1 pour une confrontation. Puis j'ai pas trippé, mais le match comme tel, ça a bien été. Environ 350 fans. JCW, la semaine dernière, samedi, c'est le retour de la JCW qui est une promotion de 20 ans au Saguenay, qui faisait un show à Chicoutimi, au centre des congrès de Chicoutimi, devant 470 personnes, la plus grosse assistance intérieure de la lutte au Québec depuis le retour de la pandémie. Évidemment, du côté de la NSPW, ils ont eu 1500 dans un stade extérieur. Dronix contre Billy Stone, match de la soirée. Leur prochain show va être le 13 novembre également à Jonquière. Donc, ça va être leur retour après 20 mois à Jonquière, où ils ont débuté. Et finalement, la NSPW, ce samedi au Diamant, ils sont déjà sold out, Kev. 6 jours après la vente des billets, ils étaient sold out. 534 billets.
Nice.
Donc, ça va être le nouveau record pour la plus grosse assistance intérieure. Marcus Burke, son dernier match à Québec contre Mathieu Saint-Jacques. Matt Angel défend son titre contre Channing Decker. Tu sais, c'est qui Channing Decker?
C'est le gars
qui jouait le rôle de Brian Pillman et Chris Benoit dans les Dark Side of the Ring.
Les
Untouchables, Marco Estrada et Toxic Dars vont affronter les Wonder Boys,
cool.
Dylan Donovan et Ian Pike. Puis oui, va affronter Lou O'Farrell dans un match mixte et Kicking and Stomping contre les Heavyweights, plus deux autres combats. Je vous invite, vous pouvez pas y aller, c'est sold out, c'est au Diamant, mais ils ont d'autres dates. Allez voir, ouais. ils vont tourner au Centre Horizon durant le mois de novembre.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas.
Ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le Japon.
Ah, là, ça brasse, là.
Ton calvaire est fini, Kev. G1 est terminé. Puis ça, c'est tellement pas terminé.
Mais pour vrai, c'est le pire G1 de toutes les
pire G1. Regardez,
man. J'étais comme, pour vrai, c'est quoi? Mais en fait...
Mais raconte-nous pourquoi on dit ça. Kazuchika Okada a remporté contre Kota Ibushi.
Okada gagne contre Ibushi.
Oui.
Ça, j'en avais parlé la semaine dernière.
T'en as pas parlé la semaine dernière?
Oui, j'ai parlé de la finale.
Oui, t'as parlé de la finale.
J'avais calé qu'Okada battait Ibushi.
Oui, excuse-moi.
C'est ça que je voulais dire. So, j'avais calé qu'il... Mais pas de la façon que c'est arrivé, guys. Ibushi se prépare, fait un move, 23e minute, tombe, bouge plus. Là, je me dis, God damn.
Ibushi qui bouge plus.
Ibushi bouge plus. Là, ouais. Je me dis, God damn. Okada, ça va faire des moves avec la foule. Okada, là, il est dans le coin du ring, il est blanc, là. Il est blanc, 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 là. Ibushi bouge pas. Les médecins rentrent dans le ring. Je me dis, God damn, c'est pas dans l'histoire, ça. Tu sais, je m'étais dit, ah, ils vont faire un angle que Ibushi, il se blesse. Okada rentre le money clip. C'est fini. Là, ça commence à être long. Puis 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 finalement, l'arbitre a dit, ding, ding, ding. Ibushi peut plus compétitionner.
Maintenant, quelle fin. Ibushi, c'est pas de leur faute, tu comprends, mais quelle fin en queue de poisson.
Mais Ibushi est blessé pour vrai, là. On parle de 2 mois, là.
Oui, exactement. Il s'est disloqué l'épaule.
Ouais, on parle de 2 mois.
Donc, on parle environ 2 mois, là.
Mais
ça n'a pas été une bonne dernière année, là, pour Ibushi, là. C'est pas la première fois.
Il a failli mourir avec sa pneumonie.
Ben, exact.
Puis c'est ça. Hey, désolé, je coule du nez comme ça se peut.
Ben, c'est correct.
Je suis un robinet. Par contre, j'ai pleuré. Pendant le G1.
Pourquoi? Parce que c'était mauvais.
Pendant la finale du G1.
Parce que c'était mauvais.
Zach Sabre Jr. va vers le ring.
Oui. Ah oui, je sais.
Zach Sabre Jr. va vers le ring, guys.
Oui.
Un des MVP du G1, je suis content. Et là, il dit, il lance un défi à quelqu'un où il n'y a personne qui peut le... Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il a dit. Je m'en fous qu'est-ce qu'il a dit. Patnet, tu pêches à Bata, reviens! Ah! J'ai crié, j'ai dit, Chibata is back!
Chibata qui s'était blessé après avoir donné.
Il avait dit ça dans sa tête.
Oui, exactement, ouais. Exactement.
So, tu pêches à Bata, reviens, puis ils m'ont donné un exhibition de 5 minutes. J'étais tellement content de voir my guy. Yo, ça là, ça m'a rendu heureux parce que je savais pas encore la fin du G1.
Ouais.
So, j'étais content, j'étais comme hype pour la fin du G1. Puis, mais là, c'est ça. Là, Shibata a dit qu'il voulait plus de combats puis qu'il voulait plus que des exhibition matches. Donc, bon. J'ai hâte de voir s'il va lui donner des vrais matchs. Je sais que New Japan sont pas tant down à lui donner des vrais matchs après ce qui s'est passé, mais j'ai hâte de voir ça va être quoi la réaction.
C'était la 3e fois qu'Okada remportait le G1 après 2012 et 2014. Puis là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au lieu de transporter une mallette comme habituellement, il transporte dans le fond la version 4 là, du IWGP
Heavyweight Championship. Parce qu'il a dit... Quand tu gagnes le G1, ça devrait être un championship. Et il dit que de gagner le G1, c'est plus gros que de gagner le nouveau belt qu'il y a.
Oui, c'est ça. Parce que là, dans le fond, on se rappelle, ils ont unifié les titres intercontinental et IWGP, championnat du monde. Et là, il y avait une ceinture, dans le fond, qui était plus utilisée.
Il ment pas. Okada ment pas. Tu gagnes un match, tu gagnes le titre. Okada a gagné combien de matchs pour gagner le G1?
Là, habituellement, Okada va au moins défendre cette chance-là une fois avant Wrestle Kingdom.
Mais je pense pas, vu que Ibushi est out. D'habitude, mettons, le gagnant du G1 va des fois mettre son
mais pas nécessairement contre celui qui a battu.
Souvent, c'est contre celui qui a battu.
OK, mais il pourrait le faire contre quelqu'un d'autre pareil.
Ouais,
bref, mais... Wrestle Kingdom, cette année, c'est sur 3 soirs. On se rappelle 4, 5 et 8 janvier. Donc, ça va être intéressant de voir où on s'en va. Des nouveaux champions par équipe junior également. Il me semble que ce belt-là change à chaque fois qu'on fait un show.
Ça, je m'en fous.
Robbie Eagles, mais c'est Robbie Eagles et Tiger Mask qui ont remporté. Mais... Robbie Eagles, double champion. Ouais. C'est un Australien qui est excellent.
Mais qu'est-ce que je voulais dire, là, c'est que le portrait de Wrestle Kingdom commence à à se placer parce que tu vois, d'un côté, Will Ospreay dit que c'est lui le vrai champion.
Ouais.
De l'autre côté, Shingo Takagi dit que c'est lui le vrai champion. De l'autre côté, t'as.
Mais ils ont trois soirs à faire, donc il pourrait y avoir facilement trois main events pour le championnat.
C'est pour ça que j'aime qu'est-ce qu'ils font au New Japan en ce moment à ce niveau-là. Là, il faut trouver des challengers. Là, le Jeff Cobb, il faut qu'il tue quelqu'un. Là.
Tu parlais de Will Ospreay en terminant sur New Japan. New Japan a annoncé qu'il sortait une série sur YouTube. Donc, pour ceux qui connaissent moins le produit, à partir du 1er novembre, ils vont avoir sur leur YouTube en anglais un show qui s'appelle NGPW Extra. Et ça va être surtout des nouvelles et des highlights, mais il va y avoir toujours au moins un match. Donc, le 8 novembre, ça va être un match entre Will Ospreay et Alex Zane. Donc, ben oui, je le sais, exactement. Donc, puis des fois, ça va être des matchs de leur dojo. Mais bref, c'est un show qui pourrait très bien s'écouter pour, tu sais, quelqu'un qui veut juste se tenir au courant des principales nouvelles, voir un peu ce qui se passe du côté de New Japan.
On voit à la télévision en ce moment.
Évidemment, personne le voit à part toi puis moi.
Pas grave. L'exposition Le Moine qui a lieu à Québec.
Tu t'es exposé Le Moine?
Non, c'est l'exposition Le Moine qui a lieu à Québec. Et c'est moi qui fais la voix de l'exposition.
Ah, c'est bien ça.
Ouais, c'est que si vous allez à l'exposition au Musée des Beaux-Arts à Québec, puis vous tapez Voix Kevin Raphaël, c'est moi qui parle sur l'exposition et je dis beaucoup de choses.
Alors, sur ce détail peu pertinent au podcast, les codes d'écoute.
Dude, il y a des gens de Québec!
Codes d'écoute, les gens sont plus devant leurs écrans. Codes d'écoute!
Cherche une activité familiale, c'est un de nos plus grands artistes québécois.
Ben oui,
va
ben
le
oui.
voir, c'est moi qui fais la voix.
Je fais des faces.
Hey!
Je fais des faces.
Hey!
Tu fais la voix à défaut de participer à la voix parce qu'on a tous déjà entendu chanter, hein? Alfred?
Non,
on a tous déjà entendu Kevin chanter.
Un basic
Ça, c'était le meilleur timing, donc.
Tu m'as déjà dit que t'étais un peu jaloux des liens que j'arrivais à faire.
Ça, c'était bon,
mais
ça.
C'était un beau lien. Rampage, vendredi dernier, 533 000, baisse de 7,8%, 0,22 dans le key démo, baisse de 8,3%. C'était leur pire, c'était leur deuxième pire Rampage à vie.
Il était contre la série mondiale, là.
Il était contre la série mondiale. SmackDown a fait 2. Il était de retour sur Fox, 2,24. 9 millions, hausse de 4,8, 0,58, hausse de 11,5%. Du côté de Dynamite, samedi, 575 000, baisse de 20,9 avec le samedi d'avant. Et 0,22 dans le
contre la série mondiale.
Baisse de 21,4. Pas seulement ça, ils ont aussi été contre SmackDown, parce que la WWE, en fait, ils n'étaient pas contre la série mondiale, parce que dans le fond, la série mondiale n'était pas commencée, en passant, là, ni vendredi dernier, ni samedi.
Pas de série mondiale.
Série de championnat. Samedi, il n'y avait pas de série de championnat, parce que Fox, au lieu d'avoir le match Astros-Red Sox, ils ont mis une reprise de SmackDown qui a quand même fait 632 000.
Ah, c'est
très bon, ça. Et 16 dans le code d'écoute. Donc, tu sais, WWE, là, il est pas en guerre. Mais en même temps, quand il y a une chance de mettre du produit contre Dynamite ou contre AEW, ben, ils le font. Par contre, vendredi dernier, SmackDown, te rappelles-tu, il y a deux semaines, ils ont fait une demi-heure de plus pour contrer Rampage. Ils ont paru fous. Et ils l'ont pas refait la semaine passée.
Ben, c'est ça. Hein?
T'as raison, par contre. Il y avait le match, c'était la Game 6 du côté de la Nationale.
Samedi. Ça, il y avait une Game 6.
Oui, c'est vrai qu'ils ont fait, qu'ils ont fait à peu près, il y avait du college football qui a fait 14 millions combinés. Puis la série de championnat de la Nationale qui a fait 7 millions. Donc, il y avait beaucoup de compétition. Raw a fait 1,66 millions, hausse de 4%, 0,47, hausse de 19%. Ce que je veux parler, c'est l'an dernier. OK? Donc, l'an dernier, il n'y avait pas de fans, c'était le Thunderdome. Et avec l'an dernier, ils sont en baisse de 4%. Ils sont en baisse, excuse-moi, de 4% puis 7% dans les
pas
key
bon
démos.
Signe, ça.
Et il y a une foule, là. Parce que rappelle-toi, on disait l'année passée, les codes d'écoute sont basses, c'est à cause du manque de foule. Ben là, visiblement, c'est pas juste ça. C'est le booking.
C'est que le produit est poche.
Exact. NXT, quoi cette semaine, c'était moins pire. NXT, 746 000, hausse de 23,1%, 0,18, hausse de 28,6%. Donc, Halloween Havoc, ça a porté fruit. Puis pourtant, la première game de la série mondiale, a fait 11 millions à Fox. Il y a du basket qui a fait 1.4 puis 1.2. Donc, c'est encore plus spectaculaire de voir les codes d'écoute d'NXT. C'est leur deuxième plus grosse code d'écoute depuis qu'ils ont fait, depuis NXT 2.0. Les coups de cœur. Bon, j'ai beaucoup de coups de cœur cette semaine, Kev.
Raw était pas si pire que ça.
Moi, j'ai bien aimé la promo de Kevin Owens qui a mis over Houston parce que, bon, effectivement, il a remporté et le championnat des États-Unis contre Ryback et le championnat universel dans le four-way, il avait battu Seth Rollins. Très bonne finale à Raw. Kevin, là, il a pris des bombes de fou.
Yo.
De fou. Et quand l'échelle est tombée dessus après le move de Mysterio, j'étais là, oh, je pense pas que c'était ça qu'il voulait que ça donne.
Biggie.
Biggie,
qui regarde la télévision
tout croche, là. Ça sera dans les avertissements. Mais Biggie, qui s'attendait pas au Let's Go Astros.
Ouais, c'était le fun.
Et ça a été le fun parce qu'il finit par dire, ben, good luck to your Astros. Ouais. C'était très bien.
J'aime beaucoup tout ce qu'ils font avec Tipatnet, c'est quoi son nom? Patnet de téléphone, là. C'est quoi le nom du kid?
Austin Theory.
J'aime beaucoup. Puis j'aime le fait qu'on l'a matché cette fois-ci avec Dominique, il va tuer Dominique, puis après ça, ça va aller vers Rey Mysterio, puis on va avoir une plus longue feud. Fait que j'aime beaucoup ça.
J'ai bien aimé le finish de Hockey Bro et les Dirty Dogs, j'ai appelé à TVA Sport les salauds cabots, les Dirty Dogs. Ouais. L'échange de roll-up à la fin entre Riddle et Zedler, c'était vraiment, vraiment bon. J'ai adoré ça.
J'ai adoré le segment Bianca Belair, puis Sacha.
Promo de Bianca était solide. Ouais,
mais la deuxième partie de sa promo, c'était vraiment, vraiment bon, puis ça rentrait dans tes feels. Là, ça, c'est bon.
J'y vais dans pêle-mêle, mais j'ai bien aimé Bryan Danielson et Dustin Rhodes.
Dustin Rhodes, il est solide.
La foule qui a hué MJF, là, c'était complètement fou.
J'ai adoré Bryan contre Suzuki.
C'était la semaine passée. Lance Archer, as-tu vu son... Oui, je te l'ai envoyé.
J'ai regardé live, je pensais qu'il était mort.
Écoute, ça m'a fait penser à Yabusa.
100%.
Ça m'a fait penser à Yabusa. Heureusement pour Archer, il y a même pas de commotion.
J'ai aimé son tweet, moi.
C'était quoi qu'il a dit?
Il a genre mis sa...
I live, thank you, Lord.
Non, il a comme mis son action figure avec un sac de glace.
Ça, c'est drôle.
J'ai vraiment ri.
Mais tant mieux, il est correct, mais ça a été un peu épeurant. J'ai bien aimé Britt Baker contre Anna Jay à Rampage. Le meilleur match d'Anna Jay depuis qu'elle est allée avec la compagnie. Pac et Andrade, wow.
J'ai adoré Brock Lesnar qui a tué Adam Pearce.
C'est un excellent segment d'ailleurs, Brock Lesnar.
Qui a duré 30 minutes.
On l'a suspendu parce que bon, on le revoit juste au Royal Rumble, donc il fallait trouver une histoire pour le sortir. J'ai bien aimé. La nouvelle toune de Sami Zayn, j'ai bien aimé.
J'ai même aimé son ancienne. Je sais que c'était Babyface. Mais
oui, mais c'est justement, à un moment donné, il faut que la toune fit avec le personnage, puis j'ai bien aimé. Cody contre Aleister Black, Malakai Black.
J'ai adoré.
Puis la foule était tellement du côté de Black, ça avait aucun sens.
J'ai adoré Hit Row. On les a donné le temps de faire leur rap, de se présenter, une victoire décisive. C'est parfait.
T'as sûrement pas écouté Halloween Havoc, mais Gigi...
J'en ai écouté un peu.
Gigi Dolin et JC Jane sont les nouvelles champions.
C'est un très bon match par équipe.
C'est un bon match. Quelques ratés à certains endroits, mais très content pour Gigi Dolin, Priscilla Kelly dans son ancienne vie que je connais très bien. Très, très, très content pour elle.
J'ai aimé le segment que le Usos, qui appelle pas Usos, là.
Oui.
Hey.
Imperium qui ont battu MSK pour gagner les titres.
Ouais.
Et Tommaso Ciampa contre Braun Breaker, le fils de Rick Steiner. Très bon match. Breaker, là, c'est une superstar en devenir. Ouais. Vous l'aurez entendu ici.
J'ai aimé Dakota Kai, le reveal de Dakota Kai sur...
Oui, c'était bien.
Mais j'ai pas aimé le coup de pelle. J'ai aimé le reveal.
Gros shout-out à nos boys d'Impact, Marc Blondin, Handsome GF, Jean-Frédéric Clément. J'ai écouté Impact live. Ils ont fait une super belle job, probablement leur meilleur pay-per-view des quatre. Et en parlant d'eux, Mickey James contre Deonna Purrazzo. Mickey a gagné la belt. Excellent match.
Ah ouais?
J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Beaucoup de changements de titre à Impact.
J'ai aimé la fin du show. À part quand... Ben, en fait, c'est pas vrai. J'ai aimé tout le show. Okay.
Ben moi, je vais te parler de la fin dans l'autre bloc.
OK, attends. Ben, excuse-moi, pas tout le show, j'ai pas écouté tout le show, mais j'ai écouté le dernier match.
Ouais.
J'ai aimé le segment où on voit le kid arriver dans le ring, la femme, il braille.
Ouais.
Puis moi, tu sais, depuis...
Jusque-là, c'était excellent. Josh Alexander, c'est qui bat Christian Cage, c'est un gars de TNA, c'est un gars
c'est
que tu nous vends depuis des semaines et des semaines. Puis il gagne enfin la belle Jade Chong, que je connais, qui vient de Toronto, qui est sa femme. Pour vrai, c'est un moment parfait.
Ben, c'est pour ça que je te dis, j'étais content. Ça m'a rendu heureux quand j'ai vu ça. And then they fucked up.
Exact. On va en parler dans l'autre bloc. Le Demon qui est revenu.
Ah, je sais, j'ai
le
vu
Demon WC. Ouais, tu sais c'est qui
ben
le
oui,
Demon?
Je sais quoi, j'étais comme
non, mais tu sais c'est qui lui? Son vrai nom?
Non.
Dale Torborg. Tu sais c'est qui Dale Torborg?
Mais
attends. Sais-tu qui le père de Dale Torborg? Fred? Non? Son père, c'est Jeff Torborg qui a managé les expos.
Oh shit, j'ai failli mourir.
Ben oui, qui a managé les expos dans les années 2000.
Pourquoi je
Dale Torborg a déjà été dans le clubhouse, dans le dugout, pas le clubhouse, mais le dugout des expos pis tout. Ben oui. J'aime bien le il m'en reste deux là, de mon côté. Ben en fait, une coupe d'autres.
Ben moi, j'ai tout aimé Dynamite. Là,
j'aime bien les brackets du tournoi pour le championnat TBS féminin. On a donné des bails en deuxième ronde à
100%.
Chris Statlander, Nyla Rose, Jake Cardill et Thunder Rosa. Quatre filles qui méritent des bails.
Par contre,
j'ai bien aimé ça.
Par contre, est-ce que ça met pas de l'emphase sur le fait que t'as peut-être pas une division féminine assez profonde pour que ces lutteuses-là aient des victoires faciles contre d'autres? Pas des victoires faciles, mais des,
pu,
au moins des matchs.
Il y aurait pu avoir des matchs. Je veux dire, là-dedans, il y a des filles qui sont pas là. Julia Hart a pas de match
là-dedans.
Ouais, mais
c'est ça, c'est pas profond. C'est pas profond.
Ben, je comprends, mais j'aime quand même qu'on leur donne une certaine importance en contrepartie.
J'ai adoré Queen Zelina, sa promo.
Ah! Ok, la promo.
J'ai adoré le fait qu'elle passe de British à pas British à British à pas British. Puis à un moment donné, elle dit, tu sais quoi, je m'en colle, j'en parle plus.
Gros chaleur à Jessica Carr, l'arbitre féminine à la WWE,
oui,
qui
énorme.
A été la première arbitre en Arabie Saoudite et la première arbitre à arbitrer un match Hell in a Cell. Parlant d'Hell in a Cell, Edge et Seth Rollins.
Quel match!
Mais il y a eu des bons matchs. À Crown Jewel, Mansoor et Mustafa Ali,
c'était
bon.
C'est un excellent
bon.
Match.
Riddle, Randy Orton contre AJ. C'était bien. Goldberg et Lashley,
c'était
ça a été
excellent.
Surprenamment
c'était
bon.
Excellent.
Woods et Balor.
Tous ceux qui disent que Goldberg peut pas sell, là, il y a sell as fuck là-bas.
Oh, le bum, ça attend.
Excuse-moi, il y a sell.
Xavier Woods et Finn Balor, c'était très
moi,
bon.
Moi, j'étais investi, Xavier Woods. Je pensais pas qu'il allait faire gagner Xavier Woods.
Biggie Drew, c'était un
c'était
très
bien.
Bon
c'était pas
bon
le meilleur
match,
mais c'était bien.
Le three-way féminin, Becky, Sasha, Bianca, c'était
ben oui.
Très. Pis c'était excellent.
Puis ils ont eu du temps.
Puis Brock et Roman ont.
Ben ça,
ont fait, mais ils ont fait une bonne job. Ils ont fait une job correct.
Moi, j'ai trouvé ça très bon.
Ah, ok, je pensais
que
tu chialais. Bon,
non, dans le sens que je m'attendais pas à moins que ça.
Le segment coup de cœur a jamais été aussi long.
Genre, yo, les gens qui disent qu'on est pas positif, là.
Puis les gens qui disent qu'on dit jamais rien de bon, c'est la WWE.
Tabarnouche.
Avertissement.
Bon, avertissement.
Je vais sortir mon sel.
Ce segment pourrait contenir des critiques négatives.
Tabarnouche.
So Biggie! Hein? Biggie, comment t'écoutes la télé, bro? Biggie!
On dirait,
tu veux pas écouter la télé de dos?
On dirait que c'était le garde du corps de la télé.
Biggie,
il protégeait
écoute,
la télé.
La télé ici. Biggie, regarde comme ça. Qui fait ça? Qui écoute
la télé de même? OK. T'en as parlé. Josh Alexander bat Christian Cage. Super beau moment. Et là, qu'est-ce qui arrive? Moose, qui avait plus tôt dans la soirée gagné un match genre Money in the Bank, donc il y a une chance au titre quand il veut. Et il arrive et il bat Josh Alexander. Et là, tu fais comme quand t'as dit Impact a été Impact.
Impact a été Impact.
C'est comme What the fuck? Je,
on peut-tu retourner chez nous avec un moment heureux
ben
pis qu'on puisse vouloir écouter ton foutu show?
Voyons.
Tu veux l'écouter jeudi ton show?
Ça là, c'est l'équivalent que si Hangman Page bat Kenny Omega. Pis 5 minutes après, t'as quelqu'un
MJF.
Qui rentre, MJF, pis il bat. Tu fais comme, man, come on. Pis Moose était pas si over que ça, là,
non,
en plus.
Vraiment pas.
Mais le pire là-dedans, c'est que dans les tapings qu'ils ont fait, ils ont même pas été en feud.
C'est vrai.
Josh Alexander s'est battu contre Minoru Suzuki.
C'est vrai.
C'est la dernière... Suzuki est retourné au Japon,
ouais.
D'ailleurs, à ton grand... À ta grande tristesse, j'imagine. Mais c'est ça. Et là, Moose s'en va, je crois, contre Eddie Edwards. Donc, je veux dire, il est maintenant pas en rivalité tout de suite. Fait que t'as fait ça pour rien parce que les gens me disaient, ben, ça va être bon, Pat, ils vont être en rivalité. Ils sont même pas en rivalité. Merde.
So, Carmella, c'est shit, son affaire, là.
Son masque, là. Hey, come on. Penelope Ford, deux fois, elle a manqué de timing avec Ruby Riott. Elle s'est pitchée. À un moment donné, là, elle est venue pour... Elle s'est faite pitcher dans le coin, mais pas dans le coin. Elle s'est tassée trop vite sur le saut à pieds joints. Penelope Ford, là, gros manque de timing. J'ai adoré, hey, j'ai oublié de dire, mais tu sais-tu comment JF a appelé les Inspiration?
Non.
C'est les anciennes Iconics, oui, qui ont gagné les belts par équipe.
Ouais, que c'est de la foot merde, là.
Ils ont appelé les Inspirantes. J'aime la traduction. Inspiration, okay, les Inspirantes.
Mais c'est de la foot merde, yeah, que First Day In gagne les titres.
Mais ça, on l'a déjà vu dans le passé, mais honnêtement, ils ont été bonnes dans le match, elles, mais il y a eu des manques de timing, puis Jessica Havoc, et c'est rare, je suis critique envers elle parce que je la trouve excellente. Elle a semblé chancelante. Deux fois, c'est enfargé. Il y avait quelque chose là qui se passait. Ou en tout cas, elle était peut-être pas en super forme, je ne sais pas. Mais à cause de ça, le match en a été un peu.
Yo, Chucky est shit!
Chucky, c'était... Chucky, c'est une chose. Il y avait un party d'Halloween backstage,
hey,
avec le gars qui avait la pire imitation d'Elvis contre la pire imitation de Freddie Mercury. S'il avait pas dit à la fin « Another one bites the dust », je l'aurais pas reconnu, c'était Freddie Mercury.
Je savais même pas que c'était Freddie Mercury.
Ben, tu vois, moi, je l'ai reconnu parce qu'il a dit une toune. Tu sais? Raquel Gonzalez tourne la roue parce que c'était un match, ouais, « Spin the wheel ». Et là, la roue, elle va vite. Par moment, elle arrête ben sec sur Chucky's Choice, le choix de Chucky. J'ai assez vu The Price is Right dans ma vie pour savoir qu'une roue arrête pas vite de même. J'ai trouvé ça mauvais.
Shit, okay, hey, shit.
Au dernier pay-per-view d'Impact, Jay, ouais, White sort pour confronter Kenny Omega.
Jay White, ouais, vas-y.
Pay-per-view d'après, ni Jay White est là, ni Omega est là. Puis moi, je pense que EW avec Impact, ça commence à achever. Il y avait une foule de 900 personnes à Impact, pas très bruyante. C'était comme s'il était 8.
Ça fout de plat.
Zoé Stark qui manque son 450, mais manque, là. Les pieds sont arrivés genre 10 minutes avant le reste de son corps. C'était vraiment pénible à regarder. Oui.
T'es en fire, là.
Oui, absolument. OK, Mandy. J'avais dit la semaine dernière.
Ah, oh, Mandy Brooke,
j'avais
là.
J'avais dit la semaine dernière que le clan Mandy Rose avec J.J. Dolan puis J.C. Jane était soit pour pas gagner ou tout gagner les titres. Right. Fait qu'ils ont tout gagné les titres. Les titres en équipe, ça va. Mais Mandy Rose a battu Raquel
hey,
Gonzalez.
Man, c'était-tu shit, ça?
Le match passera pas à l'histoire, évidemment. Dakota Kai est arrivée avec un hood. C'est elle qui a attaqué Gonzalez avec
Mandy
une pelle.
Mandy Rose. Sais-tu ce que Catherine m'a dit?
Non.
Elle m'a dit qu'est-ce qu'elle fait là?
OK. Et moi, je vais juste te faire. J'ai fait des recherches, Kev.
N'aime pas faire des recherches.
Je vais te donner une liste. OK? Une liste de championnes à NXT.
Ouais.
Écoute bien.
Ouais.
Paige.
Ouais.
Charlotte Flair.
Ouais.
Sasha Banks.
Ouais.
Bayley.
Ouais.
Asuka.
Ouais.
Ember Moon.
Ouais.
Shayna Baszler.
Ouais.
Kairi Sane.
Ouais.
Rhea Ripley.
Ouais.
Io Shirai.
Ouais.
Raquel Gonzalez.
Ouais.
Mandy Rose. Trouver l'intrus!
Ben, c'est la seule qui peut pas work.
C'est la seule! Fait que c'est rendu ça, NXT?
Ben, c'est Raw! NXT, c'est Raw! Ils s'en foutent, je m'en fous! La seule raison pourquoi j'ai écouté NXT, c'est parce que j'avais juste ça à écouter, parce que Joanne et Philippe, fallait que j'écoute la lutte.
Carmelo Hayes et Trick Williams, qui est dans la okay, maison
Trick,
hantée
Trick
de
Williams
Dexter
peut
Loomis.
Pas cut un promo pour sauver sa vie. Tout le monde pense que Trick Williams peut cut un promo. Y'a personne! Mettons dans ton crew de black, là, OK? Dans ton crew de black, là. Y'a personne qui ressemble à Williams.
J'ai pas de crew de black.
Non, mais mettons un crew de black, là. Y'a personne!
Mais pourquoi j'ai un crew de black?
Mais parce que Carmelo Hayes pis lui, c'est comme un crew de black.
OK.
Bon, mais y'a personne qui fait comme Trick Williams.
Mais ça serait qui, mon crew de black à moi? Toi, Andy, puis Galacha.
Quand tu viens souper
toi,
avec nous.
Toi, Andy, puis Galacha.
Rajoute Boko.
Boko.
Mais y'a personne qui est comme William. Il est shit. Carmelo Hayes a du charisme qui lui sort par le nez comme je sors la morve de mon nez. Hein. Carmelo Hayes est exceptionnel. Puis il se fait dragged out par un lame-ass, tall-ass bitch.
Damn!
Je le trouve tellement poche! T'as l'opportunité d'avoir un micro!
Ça fera pas le teaser, frère.
Non, mais t'as l'opportunité d'avoir un micro, man, pis de pouvoir montrer ta personnalité, de montrer le black culture, pis t'es lame!
Mais y a
lame!
Il y a clairement une cut à faire avec ça, par contre.
Il est lame!
Hey, moi, j'ai vu des zombies. J'ai pas filé pendant un instant. Je peux pas croire qu'ils ramènent des zombies. OK. Le fameux tournoi, là, King of the Ring puis Queen's Crown.
Ouais.
OK. Le total des matchs du côté des hommes.
53 minutes.
70 minutes
ouais,
12.
Oui, c'est ça, j'ai dit. Ouais.
Du côté des filles, parce que la finale
ça,
a eu 5 minutes 50. Donc, c'est le match le plus long.
C'est 13 minutes, ouais.
Le total, 19 minutes 32. So, ouais. 28% du temps accordé aux hommes et trois fois moins que les hommes. Le rematch, ils font un rematch entre Zelina Vega et Doudrop.
Pourquoi?
Combien de temps? 2 minutes 30. Je comprends qu'ils mettent Sasha, Charlotte, Becky, Bianca on top et over. Ça, ça va. C'est les vedettes. Mais en même temps, comment tu peux avoir une disparité aussi grande quand ton match le plus long a duré 5 minutes 50 puis le match le plus court du côté des hommes a duré 7 minutes 58? Alors, je voulais le mentionner, mais j'avais fait les statistiques depuis le début. Je voulais pas l'avoir fait pour rien.
Tu peux-tu annoncer le gagnant là, avant qu'on fasse Double J?
Annonce le gagnant, bonne idée.
La gagnante!
Prépare une toune.
Du concours des billets.
Oui.
Chanel Goulet.
Oh, félicitations, Chanel Goulet.
Hey, 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 hey.
Alors, hey. Et je rappelle que le tirage est fait avec la plateforme Arbitrerie que je paye à chaque mois. Bon. Donc, c'est Chanel, vraiment un vrai tirage.
Chanel Goulet, tu vas pouvoir entrer en communication avec elle? Ou tu vas me donner, mais tu vas me donner ses coordonnées, tu vas me donner une façon de rentrer en communication avec elle.
Mais DM là sur Instagram.
DM là, je l'ai DMé, tu vas me donner son nom, tu vas me l'appeler comme du monde que je la trouve. Que c'est, d'un coup qu'il y a plus qu'une Chanel Goulet, je veux savoir c'est laquelle.
Tu vas sur ton post, tu check Chanel Goulet.
Je vais aller sur mon post. Et là, ce que je voulais dire également, c'est que Chanel, t'auras pas les billets tout de suite, parce que je les ai pas encore reçus moi-même. Je vais te communiquer avec toi, puis on va t'envoyer les billets bien avant le 30 décembre. Donc, merci beaucoup d'avoir à tout le monde d'avoir participé. On va se voir le 30 décembre à la Place Belle, quiz de Double J. Jérôme Jacques, c'est l'heure du quiz. On se souviendra d'eux en Babyface ou en Heel spécial Halloween.
Oh, Halloween avec.
Le Yeti. Moi, je pense qu'il était Heel.
Moi, je pense qu'il était rien. Moi, je pense qu'il était Twinner parce qu'il savait pas sa personnalité.
Le zombie de ECW. Il était heel. La foule détestait l'idée.
Parce que l'idée
parce qu'il était
shit.
Sur sci-fi, oui, c'est juste pour ça.
C'était pas le personnage qui était heel, c'est la foule qui l'a mis heel.
Zodiac.
Attends, ça me dit quelque chose.
Zodiac, si je me trompe pas, c'était Brutus Beefcake. C'était l'alter ego de Brutus Beefcake.
Heel.
Qui était. Qui a été heel. Donk et Dink.
Heel.
Tu sais, c'est qui Dink?
Mais Donk pis Dink.
Non, mais Dink, tu sais, c'est un Québécois.
C'est qui?
Dink, c'est son nom de lutteur au Québec, c'était Tiger Jackson. Tite-Claude Giroux.
Ouais.
On l'appelait. C'est pas méchant, mais tout le monde l'appelle Tite-Claude, là. C'est une petite personne,
c'est
un mais tout le
surnom.
Monde. C'est un surnom. Lui-même, il veut se faire appeler Tite-Claude. Boogeyman.
Babyface.
T'as jamais vécu, si t'as pas vu Guillaume Lefrançois, mon ami de la presse, okay, imiter le boogeyman dans une soirée avec une horloge puis des verres de terre, mais en bonbons.
Il faisait tellement peur, man. La première fois qu'il a mangé les verres de terre, puis il les mettait dans la bouche de l'autre lutteur, j'étais comme, t'es-tu payé assez cher pour ça? Ben, je me suis rendu compte que oui.
Damien Demento.
Oh, shit. Damien.
Moi, il était heel, Damien Demento.
Demento.
Ça fait de l'excellente radio, ça. Hey, OK, pendant que tu checkes ça, le Fiend.
Ah, oh, heel, le planète. Oui. Fiend est...
Ben, Demento était heel. Et le Fiend était plus heel.
Ouais.
Hey, Fred, on peut nous écouter où?
TVA Sport Cube, RS Stitchers, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, laissez-nous 5 Star, Frog Splash.
Moi, je vais être à Shimmer ce week-end, Kev. Mon premier voyage de lutte aux États-Unis en 2 ans. Je m'en vais couvrir Shimmer du côté de Berwyn à Chicago.
J'aimerais ça que tu me ramènes un t-shirt de je sais pas qui.
OK, je vais te ramener un t-shirt de je sais pas qui. Et puis, allez écouter Sans Restriction avec Gabriel Carl. Procurez-vous mon livre sur le géant. Ferré Noël approche, donc mon deuxième Noël avec le livre. C'est déjà tout pour nous. En mon nom, Pat Lapras, celui de Fred Poirier et Kevin Raphaël. Je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. T'arrêtes-tu de moucher, man? Ça n'a aucun sens. T'es un érable.